Daniel Elissef, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi vous, Daniel Elissef, que l'on connaît plutôt comme une spécialiste de l'art et de la Chine ancienne, avez-vous eu envie d'écrire un livre sur Puyi ?
Parce que d'abord l'étude de la Chine ancienne me servait surtout à comprendre le monde d'aujourd'hui. Et parce que de plus, je me suis trouvée en contact avec un certain nombre d'étudiants et de jeunes professeurs qui eux-mêmes étaient les maîtres de ces étudiants et qui me semblaient très démunis, c'est-à-dire n'ayant pas une connaissance précise de ce qui s'était passé en Chine au cours des 500 dernières années. Et il m'a paru utile de leur d'écrire un livre très simple et qui cherchait simplement à leur montrer l'articulation de la géographie, des hommes, des événements et comment les uns interagissaient sur les autres, en somme la vie à travers des personnages.
Qu'est-ce qui vous fascine dans les personnages de Puyi ?
Mais rien du tout, sauf si une chose me fascine, et c'est le caractère absolument poignant de ce que l'enfermement peut faire sur un être. Et c'est ce que j'ai découvert en le regardant d'un peu près. Et c'est à quel point cet homme a été prisonnier toute sa vie, prisonnier des idées, mais aussi prisonnier matériellement. Il était toujours enfermé, soit à la cour impériale, soit dans un autre palais. Et les Japonais l'ont déplacé de palais en palais. Et puis après, il s'est trouvé prisonnier des Soviétiques, puis prisonnier en Chine populaire. Et même lorsqu'il était jardinier, il n'était pas maître de sa destinée. Donc c'est un exemple extraordinairement poignant de la destruction de l'individu quand on l'empêche de créer des liens et d'aller vers les autres et d'aller vers le monde.
C'est d'ailleurs probablement pour ça que les psychanalystes chinois, je vais y arriver, s'intéressent aujourd'hui à Puyi.
Oui, ils s'intéressent beaucoup à lui parce qu'effectivement, c'est un homme qui a eu trop de mères. Il avait bien sûr eu une seule mère biologique, mais deux autres impératrices, épouses d'empereurs décédées, avait théoriquement le pas hiérarchique sur la mère biologique. Il avait donc trois mères devant lui. L'une, la mère biologique, ne pouvant pas s'occuper de lui puisqu'on l'avait chassé de la cour pendant longtemps. Et les deux mères qui n'étaient pas biologiques, le regardant comme un petit être avec lequel elles n'avaient pas vraiment de lien et qui était seulement la source de leur pouvoir.
Comment avez-vous travaillé pour cerner au plus près sa personnalité ?
Alors je ne sais du tout si j'ai cerné au plus près, je n'ai absolument pas cette prétention. Et simplement, je me suis servi d'un certain nombre de documents qui sont accessibles maintenant et qu'ils ne l'étaient pas, par exemple, il y a une dizaine d'années. Vous savez que depuis 20 ans, les archives chinoises s'ouvrent, que peu à peu, de nouveaux documents sont soit numérisés, soit consultables, soit étudié par un certain nombre de savants, et c'est de cela que je me suis servi. Je n'ai pas eu accès aux sources premières, j'ai eu accès à des travaux de grands érudits qui ont pu œuvrer, notamment, je pense aux érudits russes, qui ont travaillé à partir des archives de la NKVD, qui sont nouvellement déclassifiées et qui donnent leur version de la personnalité de Puyi. Il y a aussi un certain nombre de documents chinois sur sa vie, qui ne décrivent pas du tout sa personnalité, mais qui permettent de comprendre où il a vécu, comment il a vécu. Il y a aussi tout ce travail des autorités, des musées chinois actuellement, à Changchun par exemple, et qui s'efforcent de recréer son cadre de vie quand il était l'empereur du Manchukuo.
Alors, pour revenir à son enfance, vous tracez son arbre généalogique, qui semble complexe.
Oui, alors pour faire simple, il est l'arrière-petit-fils de l'empereur Tao Guang, qui est mort en 1850, qui est considéré à juste titre comme le dernier grand empereur de la dynastie Manchu des Qing. C'est celui qui s'est opposé à l'importation massive d'opium par les étrangers. C'est lui qui a pris de plein fouet les guerres de l'opium, justement, à partir de 1840. C'est le dernier empereur qui a tenté de redonner une dignité à la Chine, ce qu'il n'a pas pu faire, puisque la Chine ne s'était pas industrialisée, développée militairement et peut-être aussi administrativement et au même niveau, industriellement, au même niveau que les puissances occidentales qui étaient, elles, en pleine période d'expansion, qui cherchaient des territoires, des échanges, du commerce et des matières premières.
Qui était Dai Kang, le père de Puyi ?
Saifeng.
Saifeng, oui. Bon, ma prononciation chinoise n'est pas géniale.
Alors, lui aussi, c'était un grand prince, et bien sûr, un descendant des grands empereurs Qing. Et c'est un personnage qui est, pour moi, l'archétype du lettré chinois, bien qu'il soit manchou. Mais vous savez qu'à l'époque, les manchous étaient tout imprégnés de culture chinoise, tout en essayant de garder les valeurs de leur propre culture ancestrale, qui était celle d'un peuple nomade ou semi-nomade, guerrier, cavalier, chasseur, un peuple très actif. Donc Saifeng, le père de Puyi, était en fait un homme d'études qui habitait une très jolie demeure au nord du palais impérial, qui n'avait aucune idée, aucune envie d'en sortir, et qui s'est trouvé par la force des événements obligé d'amener son fils, qui n'avait même pas 3 ans, au palais impérial à la fin de l'année 1908, quand l'impératrice Cixi est morte, et qui s'est retrouvé régent, qui a d'ailleurs tenté de prendre le chemin que lui suggérait l'évolution du monde à l'époque, c'est-à-dire qui a tenté, mais très lentement, beaucoup trop lentement, et sans doute sans tout comprendre de ce qui lui aurait permis d'avancer, il a quand même tenté de faire avancer la Chine sur le chemin d'une monarchie constitutionnelle. Mais il était trop tard. Et il a été ballotté par les événements, il a été malmené par les généraux qui ont pris le pouvoir, il a été méprisé, je crois à tort, par son fils.
Est-ce que c'est Bertolucci qui a le mieux cerné l'histoire de Puyi ?
Non. Ceci étant, j'ai une admiration profonde et durable pour ce film que j'ai vu, bien sûr, dès sa sortie en 1987, qui est une merveille, c'est une œuvre d'art merveilleuse. C'est aussi un film qui a eu une paternité extraordinaire dans la mesure où c'était le premier Bertolucci a été le premier qui a obtenu du gouvernement chinois l'autorisation de filmer dans la cité interdite. Et après lui, vous connaissez tous les grands metteurs en scène chinois qui, à leur tour, ont fait de même. Et en ce sens, Bertolucci a été vraiment le fondateur d'un certain type de cinéma, non seulement international, mais chinois. Et de plus, indépendamment de la beauté des images, il crée une histoire qui est très prenante. J'ai revu évidemment plusieurs fois le film, encore récemment. On est emporté dans cette histoire, même si tout n'est pas vrai. Et même si, quand je le regarde aujourd'hui, je vois, comme beaucoup de jeunes sinologues actuellement, tout le côté extrêmement occidental, tout l'aspect. Le caractère extrêmement occidental de Puyi, qui est présenté comme une sorte de Louis XIV qui n'aurait pas réussi, qui veut être l'empereur soleil et qu'il n'y parvient pas. Et je pense que Puyi était quelqu'un de trop brisé, justement, trop enfermé, enterré comme un ver de terre dans les enclos dans lesquels on le confinait. Il n'avait même pas cette idée, et même si parfois il a employé ces mots de l'État, je pense qu'il ne savait pas ce qu'était un État moderne.
Il n'avait pas appris. Dans quel contexte historique l'enfance de Puyi se déroule-t-elle au tout début du XXe siècle ?
Alors, au tout début du XXe siècle, Puyi naît dans un contexte très difficile. Donc la dynastie impériale des Qing est en train de sombrer. Et le pouvoir impérial avec lui. Et en Chine, il y a 2 grands modèles politiques pour ceux qui veulent le changement, qui se rendent compte que leur pays doit se transformer pour être aussi à l'équilibre avec les autres grandes puissances du monde. Il y a 2 grands modèles. Il y a le modèle américain, qui est le modèle donc d'une démocratie. Et puis, il y a le modèle japonais, qui est une monarchie constitutionnelle ou un empire constitutionnel depuis 1868. Donc ce sont les 2 grands modèles qui nourrissent qui nourrissent les Chinois réformateurs, qui, on l'oublie trop souvent, sont soit souvent formés au Japon, soit aux États-Unis, soit les deux, comme Sun Yat-sen, le fondateur de la République.
Alors 1900, c'est l'époque des fameux 55 jours de Pékin.
Oui, qui a été un choc terrible à la fois pour la Chine et pour les puissances occidentales, et qui se sont donc trouvées confrontées à une terrible révolte populaire, qui était la révolte des boxeurs, qui avait pris plus qu'en grippe, enfin qui avait la détestation totale de tout ce qui venait de l'étranger et du christianisme qui était jugé cause de tous les malheurs de la Chine, et qui ont commencé à massacrer non seulement les étrangers, mais tous les paysans chinois qui étaient suspects de sympathie chrétienne. Ça a été un choc terrible, tout de même on l'oublie trop souvent, limité à la Chine du Nord. La Chine du Sud, elle, n'a pas été impactée par ce soulèvement, qui est vraiment un soulèvement de la région du fleuve jaune, qui n'en a pas été. Mais le symbole est terrible, puisque les puissances occidentales, les légations occidentales se sont trouvées confinées pendant 55 jours dans leurs concessions. La guerre a été terrible, il y a eu beaucoup de morts de part et d'autre. Et finalement, après, la répression occidentale a été à la hauteur des drames et des risques encourus par les assiégés.
Alors, dans votre livre, vous décrivez Pékin à la fin du XIXe siècle. C'est quand même une ville extraordinaire.
Alors, je dirais plutôt Pékin au début du XXe siècle, et particulièrement après la révolte des boxeurs, après les 55 jours de Pékin, tout était cassé, il fallait reconstruire. Et les étrangers et les Chinois modernistes, quelle que soit leur sympathie politique, se sont acharnés avec succès à reconstruire Pékin, qui dans ses beaux quartiers, bien évidemment, quand on parle de cela, on parle des quartiers où habitaient les Chinois riches ou les étrangers. Mais il y avait de belles avenues éclairées à l'électricité. Il y avait la distribution du courrier plusieurs fois par jour et il y avait des services de poste, d'eau, de médecine absolument extraordinaires. Il y avait de très beaux hôtels. Donc Pékin et les grandes cités qui étaient ouvertes au monde sur la côte chinoise à ce moment-là, on parle souvent de Shanghai, ce qui est vrai, mais on oublie Tianjin, on oublie d'autres villes, elles étaient extrêmement modernes.
Et vous insistez beaucoup sur Tianjin, notamment.
Alors, j'insiste sur Tianjin pour une raison très simple, c'est que c'est là où habite, pendant toute une partie de sa vie, mon héros du moment, puisque les Japonais font venir Puyi à Tianjin. Et s'ils le font venir à Tianjin, c'est parce que Tianjin, c'est un point très important de rencontre entre, j'allais dire, toutes les énergies du monde. Et c'est-à-dire que c'est là où il y a des concessions étrangères, notamment une concession japonaise extrêmement importante. Et Tianjin, c'est aussi un port en eau profonde qui est donc très intéressant pour tous les steamers qui traversent les océans du monde. Et c'est le port de Pékin, même si c'est un peu loin, c'est à 120 km de Pékin. Mais enfin, quand on vient à l'époque, on ne vient pas en avion, on vient pas, ou très peu en avion, et on vient par la mer. Donc on arrive par Tianjin, et quand on vient de Sibérie, de Russie, on arrive aussi plus ou moins par Tianjin.
C'est en tout cas aussi un nid d'espions. Alors revenons un petit peu à la jeunesse de Puyi. Le 12 février 1912, il est forcé à abdiquer après la proclamation de la République par Sun Yat-sen. Alors qu'est-ce qui se passe après ?
Alors il se passe des choses compliquées. D'abord, le pauvre Puyi, il n'a que 6 ans à l'époque. Donc c'est l'une des impératrices douairières, enfin c'est l'impératrice douairière, puisque l'autre était, je crois, décédée. C'est l'impératrice douairière, la femme de l'empereur Guangxu, lui-même décédé, et qui abdique pour lui, dans des conditions sur lesquelles on est en train de découvrir des documents tout à fait croustillants, c'est-à-dire que pour entraîner sa décision, les partisans de la République lui aurait fait valoir, d'abord qu'elle allait être très bien payée, ce qui a été, je crois, le cas. Et ensuite, que si elle refusait de signer, il risquait de lui arriver la même chose qu'à Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc, elle a signé et le pauvre Pouilly s'est retrouvé empereur, mais il avait le droit de continuer à vivre avec toute sa cour dans la cité interdite. Et le gouvernement de la jeune république, qui était assez fantomatique, c'est le moins qu'on puisse dire, lui a tout de même alloué une liste civile extrêmement importante et qui théoriquement ne devait jamais changer, sauf qu'il était prévu qu'un jour, on commençait à parler de transformer le palais impérial en musée, puisqu'il y avait énormément de richesses qui s'étaient accumulées au fil des siècles, et on prévoyait de demander à Pouilly et à sa cour d'aller s'installer à 18 km au nord-ouest du palais, c'est-à-dire dans le fameux jardin de l'impératrice Tsé-Si. Et donc tout cela avait l'air très bien réglé, sauf que Sun Yat-sen et la plupart des républicains étaient soit de très valeureux combattants qui avaient donc depuis la Chine du Sud porté la révolte républicaine jusqu'en Chine du Nord. C'était aussi des intellectuels, des idéologues ou des idéalistes, mais pas du tout des gens qui avaient le sens pratique. Donc le sens pratique, il revenait à ce qui restait du pouvoir déliquescent de l'ancienne dynastie, c'est-à-dire le pouvoir militaire. Et ce sont les généraux qui ont pris le pouvoir, dont le premier d'entre eux, qui était un grand général de l'armée du Nord-Est, qui protégeait donc la capitale chinoise Su Lixing, qui est le général Yuan Shikai, qui a fait valoir que la République n'existait que grâce à lui, ce qui est quand même un peu réel, et que donc il devait être le premier président de la République. C'est-à-dire que Sun Yat-sen a immédiatement démissionné pour laisser la place à Yuan Shikai, qui peu à peu a expliqué que pour lui, la République n'était qu'une transition vers un nouveau système impérial, puisque les Japonais avaient un système impérial et ils gommaient tout le côté démocratique, entre guillemets, puisque malgré tout, au Japon, il y avait tout un ensemble de chambres élues. Et donc, il gomme tout ça en disant « Je suis le fondateur d'une nouvelle dynastie », ce qui peut se comprendre, puisque tous les généraux, tous les fondateurs dynastiques chinois étaient la plupart du temps des généraux. Et quand ils n'étaient pas généraux, ils étaient de grands révoltés qui avaient de grands talents militaires et tous ont pris le pouvoir par les armes.
En tout cas, c'était le début d'une grande pagaille. Que s'est-il passé le 4 mai 1919 ?
Alors, le 4 mai 1919 est une date fondamentale pour comprendre la Chine de cette époque, mais également la Chine d'aujourd'hui, puisqu'on y fait toujours référence. C'est la première grande révolution culturelle qui commence, comme toujours, par une manifestation, terrible manifestation, parce que les Chinois qui se sont investis dans cette pagaille immense que vous soulignez, ils se sont tout de même investis dans la Première Guerre mondiale, aux côtés des Alliés. Et qu'apprennent-ils quand ils envoient des gens à Versailles ? Ils apprennent que les négociateurs du traité de Versailles sont en train de donner tous les territoires que les Allemands avaient obtenus dans la péninsule du Shantung. Ils sont en train de les donner aux Japonais, qui sont déjà, depuis 1910, implantés en Corée, et qui, depuis 1905, ont mis un pied en Mandchourie en mettant la main sur ce chemin de fer si important qu'on appelle le Mantetsu en japonais, c'est-à-dire le chemin de fer de Mandchourie, et qui relie la Chine et justement Tientsin et Pékin au Transsibérien, donc un axe de communication majeur. Ça veut dire que les Japonais sont quasiment maîtres de toute la Chine du Nord-Est, avec Pékin pas loin, qu'ils pourront prendre quand ils voudront. Donc évidemment, tous les révolutionnaires, mais les révolutionnaires pas forcément au sens militaire du terme, mais tous les gens qui sont pour la Chine moderne et le renforcement de la patrie chinoise sont bouleversés. Et ils se rassemblent à Pékin, les étudiants d'abord bien sûr, mais il n'y a pas que des étudiants. Toute la bourgeoisie suit, la bourgeoisie éclairée, ou la plupart de la bourgeoisie éclairée, et on décide qu'il ne s'agit pas de faire simplement une révolution politique, puisqu'on est en plein dedans et que visiblement ça ne marche pas très bien, mais il faut faire une révolution une révolution culturelle, c'est-à-dire changer ses manières d'agir, de se comporter. Et c'est à ce moment-là que commence la première campagne anti-confucéenne en disant créons des familles, vivons d'une manière moderne, comme on le fait en Europe, comme on le fait aux États-Unis, abandonnons notre famille à la confucéenne.
Dans quelles circonstances Puyi devint-il empereur du Mandchoukuo ?
Alors ça a été très compliqué et très long. Et puisque, en fait, l'histoire de Puyi, en l'occurrence, n'est que l'histoire des Japonais qui veulent absolument s'étendre au-delà du Mantetsu, au-delà du chemin de fer en Mandchourie, parce que le Japon, depuis 1868, est devenu une puissance, elle l'a montré dès 1895, quand elle lance sa première guerre contre la Chine, et puis en 1900, et quand elle participe aux côtés des puissances occidentales à l'écrasement de la révolte des Boxers, le Japon est devenu une puissance, j'allais dire, de l'Occident, enfin, équivalente en puissance militaire à celle des Occidentaux. Le problème est que ce Japon de Meiji, l'empereur Meiji étant mort en 1912, ce Japon de Meiji, ou issu de Meiji, est un colosse au pied d'argile. Parce que le Japon est petit, c'est l'archipel que tout le monde connaît, qui est plus petit que la France, et c'est un archipel dans lequel il n'y a pas tout ce dont a besoin une industrie moderne, c'est-à-dire du charbon à l'époque, et des métaux. Et puis, c'est aussi, on l'oublie un peu, c'est un Japon qui, à l'époque, n'arrive pas à nourrir sa population, qui est en pleine croissance démographique, et les céréales cultivées au Japon ne suffisent pas à nourrir la population. Or, où se trouvent à la fois les richesses minières et agricoles? Eh bien, elles se trouvent en Mandchourie, qui est un territoire extrêmement riche en charbon, en métaux rares, et avec de grandes terres prêtes, que les Chinois ont déjà commencé à mettre en exploitation, qui sont des terres qui, pendant au moins deux siècles, n'ont pas été cultivées, puisque les empereurs mandchous voulaient conserver ce territoire comme symbole de ce qu'était leur nation. Encore une fois, une nation chasseresse. Et c'est seulement au XIXe siècle que vraiment les terres de Mandchourie ont commencé à être mises en culture. Elles sont immenses. Vous savez que la Mandchourie, c'est grand comme, je crois, l'Allemagne, la France et l'Italie réunies. Enfin, c'est un énorme territoire. Ce n'est pas seulement une petite province de la Grande Chine. Donc, il y a des quantités énormes de richesses à prendre en Mandchourie. Et les Japonais veulent absolument s'implanter en Mandchourie. Et il leur semble, dans les années 30, alors qu'on est en pleine montée d'une fraction de l'armée japonaise extrêmement active, en pleine montée violente, ils veulent prendre cette fraction veut prendre le pouvoir militairement et veut symboliser ce pouvoir en essayant de trouver pour amadouer la Société des Nations, ce qui ne va pas réussir, mais enfin ils essayent, les Japonais essayent de donner une espèce de légitimation politique à leur implantation en Mandchourie, en disant mais c'est pas nous, nous ne sommes là que pour aider un empereur mandchou qui, ayant été chassé de Chine, revient très naturellement au terroir de ses ancêtres. Et cet empereur mandchou, c'est Puyi, qui après plusieurs péripéties assez rocambolesques, finit par être intronisé en 1934.
Alors justement, de 1934 à 1945, il ne sera en fait qu'un empereur de pacotille, un peu marionnette des Japonais. Et pour rester dans le rocambolesque, en 1945, il fuit vers le Japon, mais c'est une fuite manquée qui se termine en Russie. Et là, ça commence à devenir intéressant.
Alors là, ça devient très intéressant puisqu'il a ces documents déclassifiés qui ont permis à, entre autres, deux historiens russes de donner les textes les plus importants de ces documents et de montrer d'abord comment s'est faite l'arrestation de Puyi, qui se trouve à l'époque, il a fui Changchun, c'est la débâcle, la défaite du Japon est totale. Il s'aperçoit que l'armée japonaise, l'armée du Nord-Est, l'armée du Guantong, comme on dit en chinois, ou Kanto, comme on dit en japonais, et l'armée de l'Est dépasse, c'est-à-dire l'armée du Nord-Est de la Chine, cette armée japonaise qui était féroce, qui a fait des horreurs en Mandchourie, elle s'enfuit, enfin, ou elle est capturée, elle s'écroule lamentablement devant les soviétiques qui sont donc entrés en guerre après l'éclatement des deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et Puis s'enfuit, il veut s'enfuir au Japon. Mais il prend du retard parce qu'il se rend compte, il n'est quand même pas idiot, il se rend compte qu'il a signé, écrit beaucoup de choses pro-japonaises qui vont lui retomber sur la tête. C'est-à-dire jamais les Alliés, mais surtout les Chinois, ne lui pardonneront ce qu'il a fait. Donc, quand les Japonais lui disent « Allez, partez, voilà un avion, vous partez tout de suite pour Tokyo », il répond « Non, 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 laissez-moi 3 ou 4 jours, j'ai besoin de temps pour préparer mes valises ». Et en fait, c'est surtout pour brûler tous les films, par exemple. C'est pourquoi il y a relativement peu de films sur Puyi. Il a tout brûlé. Et enfin, au bout de 3 ou 4 jours, il prend l'avion, il descend donc pour aller vers le sud, vers le Japon. Il arrive à Shenyang, où doit le prendre un petit avion que Yoshioka, qui était l'un de ses conseillers japonais, conseiller entre guillemets, c'est-à-dire le général qui lui disait « vous faites ci, vous faites ça », il lui dit « je vous envoie un petit avion qui va vous prendre, vous et un certain nombre de dignitaires du régime de Mandchourie, et vous allez venir à Tokyo ». Donc Puyi est sur le tarmac, il ne s'inquiète pas du tout, il voit arriver des avions, il dit « tiens, c'est pas japonais, ça doit être les Américains ». Alors il a peur, mais quand même pas trop. Pour lui, il redoutait surtout les Chinois. Et puis, tout à coup, il voit venir vers lui deux généraux qui sont en fait des généraux soviétiques. Et c'est à ce moment-là qu'il s'aperçoit que ce ne sont pas des Américains. Et les généraux lui demandent qui il est. Et il dit « je suis Puyi ». Et ils le prennent. Et alors, ce qui est amusant, c'est pourquoi les généraux sont venus vers lui. Parce qu'en fait, les soviétiques, à l'époque, il ne cherchait pas du tout Puyi. Puyi, c'était bien sûr que s'il le trouvait, il le prendrait, mais c'était quelque chose de tout à fait secondaire. L'important, c'était de prendre pied eux aussi en Mandchourie, de pouvoir négocier, de ne pas laisser les Américains conquérir le nord-est de la Chine, puisqu'il y a eu un peu plus tard un débarquement américain dans le nord-est de la Chine. Donc c'était ça le conflit, c'était entre l'URSS et les États-Unis. Donc Puyi, là-dedans, ne comptait que pour des prunes, si j'ose m'exprimer avec ce mépris apparent. Mais les deux généraux soviétiques voient tout à coup, dans cette masse de Japonais et de Chinois qui sont rassemblés là, ils voient un homme qui est beaucoup plus grand que les autres. Or, Puyi était très grand, et il est surtout d'une élégance extrême, d'une élégance à la britannique, comme le lui avait appris son Johnston, son précepteur écossais du temps lointain de sa jeunesse. Et donc les deux généraux vont vers ce monsieur très beau, très, très chic, et lui demandent qui il est. Et voilà, et alors quand ils découvrent Puyi, ils sont bien sûr très contents, et Staline aussi, qui dit « on ne sait pas ce qu'on peut en faire, mais ça peut servir », et les deux généraux sont décorés de l'ordre de Staline.
Et voilà les retournements de l'histoire. Alors sa vie aurait été bien différente si justement Staline n'avait pas accepté l'extradition demandée par Mao et ne serait jamais devenu le matricule 981.
Oui, mais je ne sais pas trop ce qu'il serait devenu en Union soviétique, étant donné que lui, alors comme toujours, Puyi, il a des réactions de peur que l'on comprend encore. Il ne faut pas le mépriser, c'est un homme enfermé qui se rend compte que sa vie, elle est toujours en danger depuis qu'il est petit, parce que quand il était petit, il était mal nourri, même s'il était au palais, on le nourrissait très mal, il avait faim, et on le punissait, il avait une enfance terrible. Et donc c'est un homme enfermé qui a peur. Et donc il est en Union soviétique, il se dit « mais au palais, ce qui m'a sorti de mes malheurs, c'est d'apprendre un peu d'anglais. Après, avec les Japonais, c'est d'aller au Japon, c'est d'être gentil avec l'empereur du Japon. Donc puisque je suis chez Staline, eh bien, je vais plaire à Staline ». Donc il écrit à Staline, il demande à apprendre le russe. Et effectivement, on lui donne un précepteur qui essaye de lui apprendre du russe. Et même un jour, il demande à épouser une femme russe, parce qu'il avait toujours épousé en seconde ou xième noce des quantités de femmes. Certains même disent des hommes. Bon, peu importe, c'est pas notre problème. Et qu'est-ce qu'il serait devenu en Union soviétique, puisque bien sûr, Staline ne répond pas à ces lettres qui nous paraissent à nous parfaitement, je ne dis même pas stupides, mais déconnectées. Quand il décrit à Staline, comme il est attesté maintenant justement par ces nouveaux documents, « mais vous avez absolument besoin de moi, tout État a besoin d'un empereur, donc je vais être le premier empereur de l'Union soviétique ». Bon, que voulez-vous répondre à cela ? Donc je pense que les soviétiques n'auraient pas su quoi en faire. Ils l'auraient de moins en moins bien nourri, laissé au fin fond de la Sibérie quelque part. Donc finalement, les Chinois l'ont rééduqué. Alors quel est le résultat de cette rééducation? On peut dire que c'est peut-être un écrasement complet de sa personnalité. Je ne le sais pas.
En tout cas, il évite l'exécution, c'est un vrai miracle. Il est rééduqué effectivement dans un centre de détention de criminels de guerre. Mais à quoi ressemble la dernière partie de la vie de Pouilly, celle où il devient chinois comme les autres?
Alors je pense que, d'abord, il est passé par ce laminoir que représente d'abord le procès de Tokyo, le procès des criminels de guerre, auquel les soviétiques l'ont préparé, ce qui fait qu'il a sauvé sa tête au procès de Tokyo. Les alliés se disant d'ailleurs que les Chinois lui régleraient sans doute un jour son compte. Mais les Chinois, grâce à Zhou Enlai, ont été beaucoup plus intelligents. Ils n'ont pas voulu refaire ce qu'avaient fait les Russes aux Romanov, en considérant que cela ne servait à rien, sinon à monter toute une partie du peuple contre les révolutionnaires. Donc ils l'ont, c'est terrible aussi, ils l'ont rééduqué. Alors Pouilly, je pense qu'il a été heureux quand même, dans les dernières années de sa vie, puisque après être sorti de prison, il est devenu jardinier, mais pas jardinier n'importe où. Il est devenu jardinier dans ce merveilleux parc botanique des montagnes parfumées qui a été inauguré, je crois, au milieu des années 50, et qui est un très beau parc botanique où l'on a rassemblé toutes les essences extraordinaires botaniques qui se trouvent en Chine, y compris les séquoias du Sichuan que l'on venait de découvrir dans les années 40. Et ensuite, il est entré à la commission consultative qui conseille en somme la Chambre des députés de la République populaire de Chine, d'abord comme simple lecteur de textes et puis comme conseiller historique. Ça, c'est le trait de génie de Zhou Enlai qui a dit, mais puisque vous êtes un descendant des Aixin Guro, donc de la famille qui régnait sur la Chine sous le nom de Qing, la famille Manchu, vous êtes le dernier témoin. Vous et votre famille, vous êtes les témoins, on vous garde comme témoin. Donc vous serez le témoin de ce qu'était l'horrible féodalité. Et puis peu à peu, il est devenu éditeur des textes rédigés par cette assemblée qui n'est encore une fois que consultative, qui n'a pas un rôle politique important. Elle permet simplement au gouvernement du parti de prendre le pouls des différentes tendances qui existent en Chine, pas forcément pour en tenir compte, au besoin pour les écraser, mais enfin, ça sert à prendre le pouls. Et puis, un beau jour, on lui donne alors ce qu'il appelle sa carte d'identité, mais qui est en fait un hukou, c'est son autorisation de résidence. Donc il est un citoyen comme les autres, et on lui donne son nom de clan, donc Aixin Guro, qui est son nom propre, et puis Pouilly, c'est son prénom. Donc il a un état civil, il est un citoyen à part entière, et on lui permet même de se marier, puisqu'il l'a rencontré comme il allait danser. Vous savez qu'on danse toujours beaucoup, d'une façon très convenable en Chine, les danses de salon. Et il allait danser, puisque c'était un très bon danseur. Avec Johnston, il avait appris à danser absolument toutes les danses de salon en vogue au début du XXe siècle en Occident. Donc il allait danser, il a rencontré une infirmière qu'il épouse avec l'autorisation, bien sûr, de Zhou Enlai. D'abord, à l'époque, tout le monde avait besoin d'une autorisation pour se marier. Il fallait prouver qu'on n'était pas bigame. Ça, c'est par rapport à ce qu'était la société chinoise ancienne. Et puis, Pouilly, c'était un citoyen à part entière, mais quand même un petit peu mineur d'une certaine façon. Et là, il est heureux jusqu'au moment où il publie ses mémoires, non plus sous forme d'autocritique, mais vraiment sous forme de récits, les mémoires que la première moitié de ma vie, les mémoires que nous connaissons. Et c'est un succès de librairie, donc tout le monde est très content. Et il est heureux jusqu'en 1966, jusqu'au jour de la révolution culturelle. Il est heureux puisqu'on lui a permis de réintégrer la maison de son père, le palais du Nord, au nord du palais impérial. Là, il y était très tranquille, on lui apportait chaque jour ses rations de nourriture, il écrivait ce qu'il avait envie d'écrire, il était très heureux. Et arrivent bien sûr les gardes rouges. qui casse tout chez lui, qui lui prennent son canapé auquel il tenait beaucoup, sa table de travail, enfin qui sont horribles, mais qui ne sont pas si horribles que cela. C'est le début de la révolution culturelle. On n'en est pas encore, et lui, je pense que Zhou Enlai l'a quand même protégé, donc on lui donne des coups de semonce, mais on ne l'entraîne pas dehors, on ne lui met pas un chapeau d'infamie sur la tête, on ne le contraint pas à des bassesses, et surtout on lui laisse la vie. Mais tout de même, c'est un homme dont la santé a toujours été un petit peu fragile, ou qu'il a estimé fragile, il s'est toujours plaint d'avoir mal partout toute sa vie. Il est effectivement fragilisé et il meurt un an plus tard d'un cancer doublé d'une crise cardiaque. Mais finalement, nous mourrons tous, notre cœur finit par s'arrêter, c'est ce qui signifie notre mort. Donc les uns disent qu'il est mort d'une crise cardiaque, les autres qu'il est mort d'un cancer. Je pense que les deux vont de pair.
Alors il meurt en 1967, il est enterré où ?
Alors dans un premier temps, et alors c'est quand même très, très symptomatique, on l'enterre au Papa Ocean. Papa Ocean, c'est-à-dire la montagne des huit trésors, et c'est un cimetière pour empereurs et concubines d'empereurs de l'époque des Ming, c'est-à-dire fin du XIVe, milieu du XVIIe siècle, et qui est devenu, à l'époque de Mao, qui est devenu le cimetière des héros de la République populaire. Et c'est quand même très symptomatique. On ne le jette pas dans un coin comme un chien, et on le met avec les héros de l'actuel régime de Chine populaire. Et puis alors plus tard, dans les années 90, son épouse, dont le personnage est très ambivalent, c'est-à-dire moi sur l'instant, sur la foi de ce qu'elle racontait, je la trouvais sympathique. Et puis plusieurs amis m'ont dit « mais tu es bien naïve, en fait elle n'a jamais aimé Pouilly, elle a aimé l'homme, enfin elle s'est mariée avec l'homme qui lui permettait d'avoir une situation privilégiée. Et puis si elle raconte tellement de gentillesse sur lui, c'est uniquement parce que elle parle, donc elle raconte sa vie avec Pouilly à une plume d'un éditeur, et elle gagne beaucoup d'argent avec ses mémoires. Mais alors pour se dédouaner, elle explique que grâce à ses mémoires, elle va pouvoir faire transférer les restes de Pouilly dans un cimetière impérial. Et c'est ce qui se passe. Et je crois qu'en 1995 ou à peu près, elle fait transférer les restes de Pouilly. Et vous savez qu'il y a deux grands cimetières des Qing. Il y a les cimetières qu'on appelle les Tongmin. Les cimetières, les mausolées de l'Est qui sont au nord-est de Pékin, et les Siling qui sont au sud-ouest de Pékin. Et elle fait transférer les restes de Pouilly, elle arrive à les faire transférer au sud-ouest de Pékin. Donc Pouilly, il n'est pas avec les plus prestigieux empereurs des Qing qui sont enterrés, eux, au nord-est, mais il est tout de même avec un certain nombre d'empereurs des Qing, il est enterré en terre impériale, en somme, et il redevient non pas empereur, mais un empereur de la fin de dynastie, et il faut bien des derniers empereurs, puisqu'il y a des premiers empereurs.
Finalement, une reconnaissance post-mortem. Tania Lilicef, merci.